Dans cette édition, vous entendrez les militants de l'UNSA qui se sont mobilisés ce matin. On fera aussi un point sur les grands projets à Taïarapu Est. Avant de vous parler foot, ce sera bien sûr en fin de journal. Le journal de la mi-journée de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Vaitiéré Pereire. Bonjour Vaitiéré.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence par la série noire qui continue sur les routes du Fénois.
Après le décès la semaine dernière de deux piétons à Punaouya, puis celui du conducteur d'une voiture à Moréa, cette fois c'est un scooteriste qui a perdu la vie. Selon TNTV, l'homme âgé de 42 ans circulait sans casque sur la route de Amanahouné à Bora Bora. Gravement blessé à la tête, il a été évacué vers l'hôpital de Taoné, puis déclaré en mort cérébrale à 4h du matin.
Et puis sur les routes ce matin, il y avait aussi des manifestants.
À Papeete, quelques centaines de militants de l'UNSA ont marché entre l'école Toata et le Haut Commissariat. Parmi eux, beaucoup d'enseignants et de spécialistes de l'éducation. Une mobilisation qui explique la fermeture de nombreux établissements scolaires ce jeudi. Il s'agissait pour eux de faire écho à une grève nationale qui a mis entre 130 et 200 000 agents dans la rue en métropole. Tous dénonçaient le projet de réforme du statut de la fonction publique du gouvernement Barnier. Plus de jours de carence, moins de rémunération pendant les arrêts maladie, une sanction pour les syndicats, mais une sanction qui ne tombera pas puisque le gouvernement Barnier, lui, est tombé hier avec tous ses projets de réforme et son projet de budget. Alors pourquoi manifester si la menace s'est éloignée? La réponse de Thierry Barrère, écoutez.
Elle s'est éloignée, mais elle demeure. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour nous, c'est pour qu'on avertisse les prochains gouvernements que on n'est pas d'accord. Si il y a un gouvernement qui a la bonne idée de reprendre cette mesure-là, il faut qu'il sache qu'on sera dans la rue, on est prêt à se lever contre toute forme de sanction. On sera là et on n'est pas d'accord sur ces procédés.
Thierry Barrère, secrétaire général de l'UNSA Éducation en Polynésie, qui met donc en garde contre les coupes dans la masse salariale de l'État, pourtant très problématique du point de vue budgétaire, et qui demande quand même à toutes les centrales syndicales des revalorisations de salaire pour les agents de l'État.
Là, il n'est pas prévu et il n'est pas inscrit à l'ordre du jour. En tous les cas, de l'ancien gouvernement, il n'était pas prévu de négociation salariale. Mais on espère effectivement, avec le nouveau gouvernement, pouvoir avoir des ouvertures et pas des suppressions, pas des coups de rabot sur le dos des fonctionnaires. On n'est pas la variable d'ajustement systématique pour faire des économies.
L'UNSA qui a donc été reçue au Haut Commissariat en milieu de matinée, sa grève ne dure qu'une journée.
Et la grève, les fonctionnaires territoriaux s'y préparent aussi et ça pourrait être plus long.
Oui, on vous en a déjà parlé de ce préavis déposé la semaine dernière par la FRAP, syndicat désormais majoritaire dans les services et administrations du pays. Il a été rejoint hier soir par le SFP qui dénonce aussi le malaise des fonctionnaires territoriaux. Ces deux organisations doivent entrer en grève ce vendredi. Des discussions avaient été menées avec le gouvernement mardi soir, mais elles ont buté sur des chiffres car parmi ces 18 revendications, la FRAP demande une hausse de 40% du point d'indice des fonctionnaires, soit 11 milliards de francs par an en plus pour le budget du pays. Impossible, a répondu Muetei Brotherson. Jean-Paul Ourima, le leader du syndicat, a donc acté l'idée d'aller au conflit. Vous l'avez entendu hier sur nos antennes. Et cette fois, la plus grosse perturbation amenée par le mouvement ne se retrouvera pas dans les écoles, qui seront bien ouvertes demain, mais dans le ciel. La FRAP appuie, comme d'habitude, sans mouvement sur les pompiers d'aérodrome qui vont se mobiliser dans toutes les îles du Fénois, mis à part Tahiti, Bora Bora, Rangiroa et Reiatea, puisque ces plateformes sont gérées par ADT et par le pays. Donc, les vols vers les autres îles devraient être compliqués, un sujet sur lequel Air Tahiti va s'exprimer cet après-midi.
On revient sur cette annonce hier à Taïarapu Est.
Une annonce concernant la santé qui a été faite lors d'un conseil des ministres délocalisé. L'hôpital à Taravao ne sera pas construit remis à neuf, comme cela avait été envisagé sous la mandature Fritsch. Il faut dire que le chantier pourrait atteindre les 28 milliards de francs et que le pays doit aussi rénover le CHPF, l'hôpital d'Outuroa et plusieurs dispensaires. L'idée alternative, c'est donc un pôle public-privé dans lequel serait englobé l'hôpital actuel. Écoutez.
Un partenariat public-privé permet de mutualiser les moyens, de faire construire par le privé sur des terrains du public, à côté de l'hôpital existant, qui est en cours de rénovation à coût d'un milliard aujourd'hui. Donc le partenariat se fera avec deux blocs, une maternité, sûrement de l'imagerie et un certain nombre d'autres possibilités. Ça sera une vraie innovation, puisqu'on fera une coopération publique-privée avec une mise à disposition par le privé des blocs et une mise à disposition des chambres par le public, une vraie collaboration.
Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, qui prépare donc un appel à manifestation d'intérêt pour le premier semestre 2025 et qui ne voit que du positif dans cette idée de partenariat public-privé.
Un hôpital, ça nous aurait coûté entre 17 ou 28 milliards de construction et ça aurait pu mettre, comme le pôle de santé mentale, commencer en 2011 et finir en 2025. Donc on sait quand on commence et on ne sait jamais quand on finit. Par contre, dans le privé, mine de rien, comme ils ont notre capacité à mobiliser leurs moyens, mais surtout à suivre leur budget, ben c'est une solution qui ira plus vite et qui sera surtout à la charge des investisseurs pour la réalisation des travaux.
Voilà aux investisseurs privés de faire leurs propositions en termes d'envergure, d'architecture et d'offre de soins. Le maire de Teyarapou, Anthony Jamet, attend de voir.
J'ai un peu de doute, parce que le privé, il y a une notion importante qui est avancée pour tout projet, c'est la notion de rentabilité. Quand au niveau du service public, on parle plutôt d'efficience et d'efficacité. C'est de répondre au service qui est demandé dans de bonnes conditions. Ça n'est pas dit que la solution ne mérite pas d'exister, mais maintenant, quid de l'avenir? Est-ce que ça va se faire ou pas?
Une idée de coopération qui pourrait faire des petits. Des partenariats publics-privés dans la santé sont aussi à l'étude à Marina et à Punaouya.
Une bonne nouvelle pour les entreprises.
Oui, il s'appelle Gilles Lambert et était attendu depuis très longtemps. Il est le nouveau teneur du RCS, le registre du commerce et des sociétés. Il a été nommé en conseil des ministres hier et il va être associé aux deux autres greffiers pour répondre aux demandes administratives des entreprises. On en a souvent parlé dans les journaux, l'immatriculation, la radiation, les modifications de statut ou simplement la délivrance du CABIS prenait de longs mois et les entrepreneurs se disaient coincés par ces délais. Avec cette nomination, le ministre Warren Dexter promet désormais des attentes réduites à 2 ou 3 jours seulement.
Et effectivement, on a eu 2 candidatures au niveau national, donc des greffiers. Le choix s'est porté sur un. On a saisi le garde des Sceaux pour avis qui était du même avis. Donc on a un choix qui est conforté sur la personne de M. Lambert. Et on avait atteint des délais inadmissibles. Pour avoir un extrait CABIS, il fallait patienter plusieurs mois, et là on va passer à 2 ou 3 jours, c'est génial, c'est une superbe avancée pour les entreprises.
Voilà, vous avez entendu Warren Dexter.
Et puis toujours lors du conseil des ministres d'hier, cette aide pour la commune de Paéa.
Oui, un financement partiel pour l'acquisition d'une parcelle de terre sur laquelle la commune projette d'aménager 600 concessions, un site cinéraire, des sanitaires et un parking. Le coût de l'opération est estimé à 190 millions de francs, dont 117 millions seront pris en charge par le pays. Le terrain situé au PK 22-5 entre le magasin L'eau et le marais Arahurahu viendra compléter la liste des cimetières existants de la commune, celui de Aoua, celui de Ofei Taoto à Tiapa et le cimetière protestant situé justement devant la parcelle qui accueillera le futur cimetière. Avant de faire avancer le projet, la mairie devra toutefois finaliser ses discussions avec le Kamika actuel, propriétaire du terrain.
Du football pour finir, avec cette annonce, la Fédération Océanienne lancera son championnat pro en 2026.
Oui, cette ligue veut hausser le niveau global dans la zone et notamment celui des sélections nationales. L'idée est d'engager 8 équipes qui seraient composées des meilleurs joueurs de leur pays. L'OFC souhaite ainsi développer des joueurs qui pourraient progresser à un bon niveau avant de tenter leur chance en Australie et pourquoi pas en Europe. Radio 1 en sait plus sur cette nouvelle compétition qui va débuter en janvier 2026. Les explications de Valdemar Delage.
Oui, l'OFC travaille sur la question depuis maintenant 5 ans et elle a reçu le soutien de la FIFA. Elle va donc lancer un appel à candidature en janvier à destination des fédérations et des clubs potentiellement intéressés qui auront jusqu'à fin juin 2025 pour se positionner. L'OFC souhaiterait débuter avec au moins 8 équipes et faire un grand événement de lancement en octobre 2025. Ensuite, le championnat, une ligue fermée, débutera en janvier pour durer 5 mois durant lesquels les équipes auront 6 rassemblements à honorer. Lors de chacun d'eux, des mini-tournois seront organisés avant une finale pour déterminer le champion en fin de saison, soit au moins 17 matchs par an et par équipe selon l'OFC. Le vainqueur sera ensuite qualifié pour la Coupe intercontinentale des clubs de la FIFA.
Et l'OFC a obtenu des fonds pour ce projet.
Oui, car forcément, une équipe professionnelle, ça coûte cher. La Confédération océanienne prendra donc en charge les frais de déplacement et d'hébergement pendant la durée du championnat. Les clubs, de leur côté, devront boucler un budget d'environ 170 millions de francs, essentiellement pour la prise en charge des salaires des joueurs, mais aussi du staff, ce qui nécessite de trouver des investisseurs privés, voire publics, puisque l'OFC s'attend à voir certains gouvernements s'engager.
Mais alors, qui va participer ?
Eh bien, on sait déjà que des places ont été ouvertes à deux territoires qui ne font pas partie de l'OFC, Australie qui joue avec l'Asie et Hawaï qui évolue dans la Confédération nord-américaine. Ceci pour des raisons évidentes d'opportunités commerciales. Ensuite, les Fidjiens préparent actuellement deux équipes selon leurs médias locaux. Et d'après nos informations, les îles Salomon et le Vanuatu sont aussi sur les rangs. Leur fédération souhaite monter un projet, tandis qu'un gros club néo-zélandais est aussi intéressé. À Tahiti, en revanche, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Une réunion d'information était prévue début décembre à la Fédération, mais elle a été reportée. Le trésorier de la Fédération tahitienne Jean-François Martin dit attendre plus d'informations car, dit-il, beaucoup de prérequis sont à mettre en place.
Merci Valdemar Delage. Vous pouvez retrouver ce long dossier plus en détail sur notre site radio1.pf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Valtieri pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio 1.